Laudetur Jesus Christus.
Le ton change chez les Européens lors d'un sommet extraordinaire sur l'Ukraine à Bruxelles en présence de Volodymyr Zelensky. Retour sur ce début du jour d'après en Europe. La Russie active en Ukraine mais également en Centrafrique où les problèmes d'insécurité demeurent, notamment autour de la gestion des mines. Témoignage à suivre. La Turquie demande au PKK de déposer les armes immédiatement et sans condition. Nous retrouverons notre correspondante à Istanbul. Et puis dans ce journal, nous irons également en Irak sur le chantier d'une église détruite par Daesh qui renaît de ses cendres.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir à toutes et à tous. Et avant de développer ces titres, je vous propose de revenir sur les dernières nouvelles de la santé du pape François. Hospitalisé pour une pneumonie depuis maintenant 20 jours. La nuit dernière s'est bien déroulée. Il a bénéficié de la ventilation mécanique non invasive. Dans la matinée, l'oxygénation à haut débit via des canules nasales a pris le relais. Aujourd'hui, François a poursuivi ses thérapies, dont la physiothérapie motrice. Les prochaines nouvelles de la salle de presse du Saint-Siège sont attendues dans la soirée. Je vous le disais en titre, les 27 chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union européenne se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles pour un sommet extraordinaire consacré à la défense et à l'Ukraine. Un sommet en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors que le rapprochement américain avec la Russie a créé un sentiment d'urgence, l'UE veut afficher son unité. Tous les États membres, ou presque, conviennent du fait que nous sommes à un tournant avec la possible disparition du parapluie américain. Alors quels sont les enjeux de ce sommet? Les réponses de Jean-Jacques Héry.
Les dirigeants ont commencé par évoquer le volet défense et réarmement et sur ce plan-là, tout le monde est à peu près d'accord. La question c'est par quels moyens y arriver? Il y a bien sûr le plan de 800 milliards d'euros au total annoncé mardi par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, dont 150 qui seront prêtés par la Commission aux États membres. Des États qui auront en plus moins de contraintes budgétaires. Même en cas de déficit supérieur à 3% du PIB, on n'ira pas vous embêter si vous dépensez trop du moment que c'est en matière de défense. Les dirigeants doivent également se mettre d'accord pour identifier les lacunes européennes en matière d'industrie de défense. Cela permettra de définir des secteurs prioritaires. La défense antiaérienne, par exemple, les drones, les systèmes antidrones, les antimissiles, des secteurs où il faudra mettre le paquet au niveau industriel, recherche et développement. Ensuite, les dirigeants parleront de l'Ukraine. A priori, aucune nouvelle aide militaire ou financière n'est attendue. L'inconnu sur ce volet, c'est l'attitude de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Son pays est le plus aligné sur la Russie. Il menaçait un peu plus tôt dans la semaine de ne pas signer les conclusions. On verra ce soir ou dans la nuit s'il met ses menace à exécution ou s'il rentre dans le rang comme il a pu le faire par le passé. Bruxelles, Jean-Jacques Héry, Radio Vatican.
Et Moscou suit évidemment avec intention les mouvements des Européens. Selon le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, les propos concernant une attaque russe de l'Europe sont absurdes et délirants. Et sa porte-parole a ajouté que le président français, parlant hier d'une telle attaque, était complètement déconnecté, je cite, de la réalité. Les arrestations du proche du vice-président continuent au Soudan du Sud. C'est le ministre de la Paix aujourd'hui qui a été arrêté après l'arrestation hier et avant-hier de deux autres proches de Riek Machar. Cela suscite des inquiétudes quant au fragile accord de paix signé entre les deux frères ennemis, c'était en 2018. Ces dernières semaines, un regain de tension a été observé, notamment dans le nord-est, dans l'état du Haut-Nil. L'armée dit avoir été attaquée par une milice liée au vice-président, ancien chef rebelle, faisant craindre la montée d'une violence généralisée. En Centrafrique, dans la région du Haut-Oubangui, au sud-est du pays, des groupes armés, dont un affilié aux forces armées centrafricaines, commettent de graves abus. C'est ce qu'indique un rapport de l'ONU publié hier. Il cible principalement la communauté Peul et des réfugiés soudanais. Pour Monseigneur Nestor Désiré Nongo, l'évêque de Bossanoga, d'énormes défis restent à relever dans ce pays d'Afrique centrale qui continue de coopérer avec la Russie. Des défis sur la sécurité, notamment autour des mines, on l'écoute.
La gestion des sites miniers demeure problématique. L'exploitation des chantiers miniers se fait le plus souvent de manière artisanale et ces sites se créent un peu partout en dehors de tout contrôle de l'État. Ils sont souvent investis par les groupes armés. Les interventions sporadiques des forces armées centrafricaines et de leurs alliés ne suffisent pas à rétablir la légalité dans la gestion et l'exploitation de ces zones minières. Avec la porosité de nos frontières et la faiblesse de notre armée, je doute qu'on puisse répondre aujourd'hui efficacement à ce défi.
Des propos recueillis par Myriam Sandounov. Le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, doit déposer les armes immédiatement et sans condition. C'est ce qu'exige ce jeudi le ministère turc de la Défense. Ce message qui intervient après une semaine après l'appel du fondateur et du chef historique du PKK, Abdullah Öcalan, à dissoudre le mouvement, concerne autant les combattants kurdes repliés dans les montagnes du nord de l'Irak que ceux du nord-est de la Syrie. À Ankara, les précisions d'Anne Andlauer.
Cette déclaration du ministère de la Défense n'est pas une réponse à l'appel d'Abdullah Öcalan qui a donné toute satisfaction aux autorités turques. C'est une réaction au message du PKK suite à l'appel de son fondateur. Le groupe armé kurde a annoncé un cessez-le-feu et, tout en se disant d'accord avec le contenu de l'appel, réclame qu'Abdullah Öcalan guide et dirige lui-même le congrès censé acter son désarmement et sa dissolution. Ankara accuse le PKK, je cite, de tenter de créer la confusion en soulevant des questions telles qu'un cessez-le-feu qui ne sont pas incluses dans l'appel d'Abdullah Öcalan et rejette toute prolongation du processus en cours. Contrairement aux précédents efforts de paix qui avaient échoué après 2 ans de cessez-le-feu entre 2013 et 2015, les autorités turques veulent aller vite. Le PKK et tous les groupes qui lui sont affiliés doivent se dissoudre immédiatement et sans condition et déposer les armes, insiste le ministère de la Défense. Une allusion notamment aux forces kurdes de Syrie, les YPG, qui assurent n'être pas concernées par l'appel d'Abdullah Öcalan. La Turquie martèle le contraire. La presse pro-gouvernementale assure que des plans sont prêts pour une opération militaire d'ampleur avec l'armée syrienne en cas de refus des forces kurdes désarmées. À Ankara, Nandloa pour Radio Vatican.
Une recrudescence des violences en Syrie. Cet après-midi, les autorités syriennes ont tiré depuis des hélicoptères contre des hommes armés sur la côte dans la région de Latakié. Un fief de l'ancien président Bachar al-Assad, une personne a été tuée. Et après ces violences, des chefs religieux alaouites appellent à des manifestations pacifiques. C'est une des conséquences des coupes dans l'aide humanitaire des États-Unis. Bagdad se trouve déjà en difficulté pour rapatrier de Syrie des milliers de ressortissants irakiens, des djihadistes présumés de l'organisation de l'État islamique et leurs familles. 5 ans après la déroute de l'EI en Syrie, 56 000 personnes se trouvent actuellement dans les prisons gérées par les forces kurdes dans le nord-est syrien. On reste en Irak et plus précisément dans le cœur historique de Mossoul. L'église chaldéenne Al-Tahira, un chef-d'œuvre du 18e siècle, porte encore les stigmates de la guerre. À l'extérieur, les murs ou le dôme sont encore détruits. Ils portent les traces des bombardements de Daesh. Mais Al-Tahira renaît actuellement de ses cendres grâce à un chantier mené par l'œuvre d'Orient. Artisans chrétiens et musulmans sont à l'ouvrage, unis par leur savoir-faire pour restaurer le patrimoine de Mossoul. Il reste quelques mois de travail avant l'inauguration. Marion Fontenay s'est rendue sur ce chantier, un symbole de coexistence et de réconciliation. Reportage.
Tailleurs de pierre et sculpteurs ne chôment pas dans la cour de l'église. Ils sont entourés d'énormes morceaux de pierre, le farej, le marbre gris-noir spécifique de Mossoul, sur lequel on distingue encore les gravures et autres inscriptions en syriaque, la langue des chrétiens. Dihar taille des formes géométriques sur l'un des anciens battants de porte de l'église. Il a subi d'importantes destructions sous Daesh. Pas de quoi l'impressionner.
C'est un sentiment magnifique, non seulement pour cette église, mais pour toutes les églises et mosquées. Nous n'avons aucun problème. Nous travaillons d'un même cœur, honnêtement. Et nous sommes très heureux. Mossoul reviendra, si Dieu le veut, comme avant et même en mieux.
Une vingtaine d'ouvriers travaillent ici quotidiennement, tous originaires de Mossoul ou de la région. Peu importe leur religion, comme l'explique Youssef Janan, à la tête de l'entreprise de restauration.
Nous avons à la fois des chrétiens et des musulmans et nous cherchons à créer une atmosphère de diversité sur le chantier. Les ouvriers s'entendent tous bien entre eux avec l'entreprise. À travers cette diversité, nous cherchons à nous engager auprès de la communauté et à créer des liens avec les habitants de la région.
C'est le cas de Fadi, un Mossouliote de 45 ans. D'abord ouvrier sur les chantiers, il se forme depuis 1 an à la restauration de pierre.
Nous rencontrons des défis, mais ce n'est pas très difficile. Cela demande juste de la patience, de l'endurance et de la précision. Tout le monde ne possède pas ces qualités. Nous sommes très heureux de voir Mossoul retrouver son état d'avant.
Bien plus que la reconstruction du patrimoine, ce chantier de la réconciliation fait renaître Mossoul, mais aussi son esprit de ville mosaïque. À Mossoul, Marion Fontenay pour Radio Vatican.
Et ce soir, comme tous les soirs, la récitation du chapelet aura lieu place Saint-Pierre à 21h, présidée par le cardinal Artam. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci de votre fidélité.